Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est l'heure de votre magazine du midi sur Fréquence Mistral et aujourd'hui nous sommes avec Sylvain Ribuot et Nicolas Ribuot de la distillerie des quatre frères de Serre Chevalier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors vous êtes deux parmi les quatre frères de la distillerie, il nous manque Bastien et Olivier. Qui est l'aîné de la fratrie ?
C'est moi, Nicolas.
Et ensuite ?
Après t'as Sylvain, on a 3 ans d'écart et après, 12 ans après moi, les parents ils ont voulu la petite sœur. Et ils ont eu les jumeaux, voilà, comme dans les films de Noël, tu vois. Pas de petite sœur, du coup, et on est vraiment 4 frères à tenir l'entreprise. C'est pas un nom commercial.
Donc, vous êtes 4 à la co-gérer depuis 2020, donc depuis 5 ans quasiment maintenant. Et c'est une distillerie que vous avez repris parce que Sylvain, toi, tu travaillais déjà dans cette distillerie qui avait un autre nom, la distillerie des Boussardes, avec 3 amis.
Exact, c'est une distillerie qui s'était montée dans la vallée de Serre-Chevalier en 2012, que moi j'avais rejoint en fait l'équipe en 2015 à la suite d'un départ d'un des créateurs. Et on a tenu cette entreprise jusqu'en 2020 en gardant en fait nous tous un travail à côté. Ce qui nous a pas permis, fin de compte, de développer l'entreprise comme on le souhaitait. Et c'est à ce moment-là qu'on avait décidé de vendre. Et quand j'ai parlé de ça à mes frères, avec toutes les bonnes idées qu'on a très régulièrement, on a eu la bonne idée de reprendre cette entreprise tous les quatre. Et une des meilleures décisions qu'on ait prises jusqu'à aujourd'hui.
Justement, on va pouvoir revenir sur cette histoire, sur votre travail, votre métier, comment vous travaillez ensemble aussi en famille. Avant ça, on écoute notre chronique littéraire hebdomadaire. Et pour l'introduire, est-ce que vous auriez un livre, un coup de cœur que vous aimeriez partager à nos auditeurs et auditrices ?
Moi, si j'en ai un à conseiller en ce moment, ça s'appelle « Le livre sans nom ». Et on ne sait pas qui l'a écrit. C'est un gars qui a publié son script sur Internet, qui a été récupéré par une maison d'édition, a priori, qui l'a sorti. Et il en existe plusieurs volumes. C'est juste génial. En fait, on a l'impression de lire un scénario de Tarantino. Ça n'arrête pas, ça va à 200 à l'heure. C'est un peu noir, un peu trash, comme moi j'aime personnellement. Mais en tout cas, on n'a j'attends qu'une chose, c'est que ce soit adapté au cinéma, en fait. Vraiment, Okay. Voilà, c'est dans un délire, faut aimer. Mais alors, moi, je suis tombé dedans. Et pour vous dire, j'ai mes 2 gamins, là, 12 et 15 ans, qui l'ont lu et qui sont à fond. Voilà, très, très sympa.
Le titre, en tout cas, donne envie. C'est sûr que ça éveille la curiosité. Le livre sans nom, très bien. Ouais. Et toi, Sylvain, tu as...
Oui, à la ferme.
Moi, pour rebondir, ce dont j'allais parler a déjà été adapté au cinéma. Ce serait plutôt Le Sommet des Dieux. Moi, je suis plutôt amateur de manga et de récits d'aventure. Je suis le vrai montagnard par excellence et toujours attiré par la fièvre des sommets. Donc, un livre incroyable sur une histoire d'aventure tout à fait folle.
Ouais, un grand classique des mangas. Eh bien, on écoute maintenant la sélection d'Anaïque de la librairie Voyage au bout des livres.
Sélection de la librairie Voyage au bout des livres.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la nouvelle chronique de la librairie Voyage au bout des livres. Du coup, cette semaine-ci, on va encore vous parler littérature pour changer un peu. Donc cette fois-ci, avec le premier gros coup de cœur aussi de cette rentrée littéraire du printemps, avec un livre publié aux éditions Actes Sud de Richard Powers, ça s'appelle « Un jeu sans fin ». Donc on retrouve ici l'auteur du livre « L'arbre monde » qui avait eu le Pulitzer en 2019. Et cette fois-ci, c'est plutôt dans une ambiance nature, encore une fois, mais plutôt marine que l'auteur nous emmène. Donc il va tisser des liens entre 3 ou 4 différents personnages qui vont se rencontrer dans des parcours de vie très différents. Donc ça va de la jeune femme qui fait de la plongée sous-marine, en passant par l'auteur de littérature ou encore un homme qui travaille sur l'intelligence artificielle. Et en fait, ces personnages vont se croiser, vont tisser une toile de relations assez intense et assez surprenante, qui vont aussi mettre en relation le vivant avec l'humain. Et cette fois-ci, vraiment, Richard Powers pense le rapport à la nature, non pas comme une distinction entre humain et animal, mais comme un tout et un ensemble dans lequel il faut évoluer à plusieurs. C'est encore une fois une réussite, c'est une pépite de Richard Powers qui est accessible vraiment à tous et à toutes pour la lecture. Ensuite, dans les coups de cœur qu'on avait eus il y a quelques années, j'irais un an et demi, deux ans, il y a le livre de Imogen Beebe. Donc, c'est un livre traduit de l'américain, ça s'appelle Nevada. Et c'est le premier livre publié par une femme trans aux États-Unis. Donc, il va nous raconter vraiment le parcours de sa transition dans une sorte de road trip assez rocambolesque à partir de New York, où cette jeune libraire va vraiment partir vers le Grand Ouest. Et ça reprend vraiment tous les codes du road trip à la Thelma et Louise, mais à la fois avec un fond de toutes les problématiques de transidentité et de transition, tout en restant assez terre à terre, parce que c'est un personnage qui va avoir ses propres peurs et qui va être vraiment un peu l'anti-héros auquel on va pouvoir s'identifier assez facilement. Donc voilà, Nevada de Imogen Beebe, et c'est sorti en poche chez Folio. Ensuite, pour les ados et les enfants quand même, on a L'île de minuit, qui est une BD de Liliane et Grébille. Ça s'appelle tome 1, Le réveil de l'automate. C'est sorti chez Dupuis. C'est une BD assez rigolote où on part un peu sur un concept qui a été vu et revu, c'est vrai. Les enfants perdus sur une île, ils n'ont plus aucun souvenir et petit à petit, ils vont trouver comment survivre et notamment devoir obéir aux ordres d'un automate assez étrange qui commence par ne pas prendre trop au sérieux, mais l'ambiance va devenir assez menaçante. Donc pour le moment c'est assez chouette et on attend de voir la suite, comment ça se passe. À tout bientôt.
A tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of
green paper in his red right hand.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Vous écoutez Fréquence Mistral et nous sommes aujourd'hui avec Sylvain et Nicolas de la distillerie des quatre frères de Serre Chevalier. Alors, on disait que Sylvain, tu avais travaillé avec trois amis dans cette distillerie qui, finalement, cette aventure-là n'a pas fonctionné parce que vous aviez un métier à côté et vous avez décidé de la reprendre entre frères. Vous aviez déjà pensé travailler dans une distillerie, vous, auparavant ?
Ah non.
Non, pas du tout. Hein. C'est plutôt une histoire d'opportunité.
Ouais.
Moi, à l'époque, quand j'ai eu l'opportunité, j'y croyais vraiment. Je considère qu'actuellement, malheureusement, dans la vallée de Serre Chevalier, il n'y a aucune spécialité. Et je me suis dit que ça pouvait justement amener un petit peu de spécialité à notre belle vallée. Et à ce moment-là, j'ai foncé. Donc moi, j'avais rejoint ses amis à l'époque, sachant qu'il y avait mon meilleur ami dans le lot, donc c'était plutôt quelque chose de facile à entreprendre.
Parce qu'ils étaient tous les trois au début. Hein.
Ils étaient tous les quatre.
Ah, ils étaient
et moi,
déjà
j'ai repris
quatre.
Les parts d'un des associés qui s'était associé à l'époque. Et malheureusement, ça n'a pas fait. Donc, il a préféré vendre ses parts. J'ai bondi sur l'occasion pour rejoindre les trois autres. Ça a duré 5 ans. On s'est très bien amusé. Hein. Ça a quand même fonctionné, mais ce n'était pas rentable, tout simplement. Et c'est justement quand on a décidé de vendre que mes frères m'ont rejoint. Donc, c'était vraiment une opportunité. Et jamais on n'aurait imaginé, ne serait-ce qu'une seconde, travailler un jour. Déjà à quatre,
ensemble.
Et en plus de ça, dans le cadre d'une distillerie.
Ouais,
au début, en fait, il y avait longtemps qu'on voulait faire un truc tous les quatre. Au début, on s'était dit de, pourquoi pas monter une SCI, partir dans la rénovation. On sait un petit peu faire. On a un père qui nous a toujours appris à bricoler et à se servir de nos doigts. Et puis...
Ça a qu'à moitié marché avec toi.
Écoute. J'en ai trop, je sais pas pourquoi.
Toi, tu les as tous.
Ouais, et c'est pour ça en fait.
C'est peut-être mieux du coup de travailler dans une distillerie pour avoir ces questions-là.
Voilà,
ouais.
C'est ça. Et du coup, on avait ce projet, on voulait faire un truc tous les quatre. Il y a eu le moment où on a dit, on fait ça, on achète une maison, on crée une SCI, on la retape, on la revend, on se lance là-dedans. Et en même temps, Sylvain, il était sur un marché, il a eu besoin d'un petit coup de main. Nous, on y est allé vraiment comme ça, et puis on a passé une journée à se marrer, à rencontrer les gens, à dire bêtise sur bêtise. Enfin, c'était très, très drôle. Et c'est là qu'on s'est dit, mais finalement, est-ce que cette distillerie, c'est pas l'occasion pour nous de valoriser un petit peu tout ce que la nature nous offre, de mettre en avant un savoir-faire qui est en train de se perdre, de passer du temps tous les quatre, tout en perpétuant une tradition qui est assez ancré dans la culture française. On est fils d'agriculteurs, on a grandi ici, et on a des racines assez profondes. Et pour nous, c'était aussi ça, c'était l'occasion de dire, comme disait Sylvain, on va sortir une spécialité, un truc qui va être représentatif de Serre Chevalier, et on va utiliser un petit peu ce qui est endémique ici pour le valoriser, le mettre en avant, et le faire découvrir. Voilà, comme on a la chance d'avoir...
En soi, ce qui était super à ce moment-là, c'est qu'on avait déjà les outils et j'avais les compétences. Donc, quand on a les outils, les compétences, la seule chose qui manque, en fait, fin de compte, c'est de la motivation. C'est l'envie d'y aller. Moi, j'avais peut-être un petit peu perdu de cette motivation avec l'aventure que je venais de vivre. Et mes frères sont arrivés avec une énergie absolument incroyable pour nous relancer là-dedans. Et puis, tout s'est enchaîné, en fait, très facilement parce que des beaux outils à disposition... de l'envie, et en plus de ça, la nature qui nous entoure, qui, elle, nous offre sans compter autant de choses qu'on en a envie. Donc, c'est un bonheur de pouvoir travailler, en plus d'être travailler en famille, de travailler qu'avec des, des plantes et des fruits qu'on trouve ici dans notre belle vallée.
Oui, puisque je le dis là, mais on reviendra dessus, vous récoltez les produits avec lesquels, une grande partie.
On cueille, on récolte.
Oui, on va revenir sur cet aspect-là. Mais déjà, donc, vous êtes 4 frères, donc vous avez repris cette entreprise ensemble. Vous avez quitté vos boulots, en tout cas, Sylvain, toi, tu travaillais déjà dedans, mais...
Sylvain, il bossait aussi dans un garage. Pendant ce temps-là, il travaillait dans un garage auto, il était en relation client. Et du coup, oui, il a quitté pour se consacrer exclusivement à la distillerie. Moi, j'ai été aide-soignant pendant 10 ans. Je venais de quitter mon boulot d'aide-soignant pour monter mon cabinet. Je suis thérapeute en thérapie manuelle. Et du coup, je consacre beaucoup, beaucoup de mon temps pour la distillerie. Pardon. Et les jumeaux... ça on te racontera après, mais on en a un qui
on ça ne s'en dit jamais.
Mais attends, parce que du coup on est tous les quatre à la production, mais en saison on a une petite organisation un petit peu différente où Sylvain et moi on est sur la distillerie, Bastien il gère le bar qu'on a à Chantemerle, le bar Le Trappeur, Olivier est exploitant agricole, il est éleveur au vin et il vient de racheter un restaurant avec son frère et une copine à eux, le Flouka à Chantemerle. Donc, tu t'imagines qu'on ne s'ennuie jamais.
Mais il va quitter l'aventure ou...
C'est vraiment, on est tous les quatre à la production et en saison, on est obligé de se dispatcher un petit peu pour gérer un petit peu tout ce qu'on a mis en place.
Alors, quitte à parler du restaurant, par contre, moi, ce que je tiens quand même à préciser, c'est qu'Olivier est producteur d'agneaux, certes, dans la vallée de Serre-Chevalier, et l'idée, c'est quand même de revaloriser vraiment toute sa production en la commercialisant. Pardon, la commercialisant uniquement dans son restaurant. Donc, il propose l'agneau qu'il a élevé lui-même dans son propre restaurant. Mmh. Ça donne un petit charme supplémentaire.
Servi avec les liqueurs et les eaux de vie qu'on fait, nous. Donc,
exactement.
Du coup, c'est vraiment
évidemment
pas mal. Ça fait une jolie vitrine pour notre entreprise, un petit peu toutes ces petites affaires annexes.
Oui, bien sûr. Et du coup, vous gardez votre identité chacun par ces projets que vous avez à côté. Est-ce que vous avez chacun votre spécialité ou, on parlait de domaine, mais aussi entre frères, est-ce qu'il y en a un qui est créatif, un qui est plus rationnel,
Sur le papier, on s'était dit, on va tous les quatre savoir tout faire. Il ne faut surtout pas qu'il y en ait un qui soit indispensable. Avec les années, on se spécialise quand même. Forcément, Sylvain, il est très très bon en vente, commercialisation, tout ça. C'est vraiment tout son passé qui ressort et qu'il peut exploiter dans cette partie-là. Moi, je vais être plutôt sur... on fait tout ensemble, mais après, oui, on a des missions qui nous sont attribuées. Moi, j'ai la mission réseaux sociaux, par exemple. Tu vois,
c'est le plus vieux. C'est le plus vieux, c'est lui qui gère.
Je suis le plus vieux, je suis celui que ça gonfle le plus, mais c'est moi qui dois gérer ça, va savoir. Il y a des fois, on a une organe.
Après, on le fait un peu ensemble. Quand même.
Non, mais je taquine.
Fait ensemble. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a chacun un petit peu notre rôle. En plus, on essaie vraiment de toucher à tous les domaines de notre entreprise. On essaie de déléguer le moins possible à des acteurs externes. Donc, pour te donner une note d'idée, les étiquettes, tu vois, et tout ce qui est le travail des étiquettes, c'est quelque chose sur lequel nous, on a énormément bossé et où on a voulu qu'il soit mis sur le papier nos idées. Actuellement, ça fonctionne super bien. Alors, on travaille quand même en collaboration avec des mecs qui gèrent les bons logiciels.
Donc, c'est le métier, ouais, c'est mieux.
Mais c'est vrai qu'on essaie de toucher vraiment à tous les facteurs. Moi, je touche plutôt facteurs, tout ce qui est étiquette. Je suis un petit peu technique aussi sur les machines qu'on utilise dans la distillerie. Et c'est vrai, la commercialisation, Nico est un touche-à-tout. Il sait absolument tout faire et rien ne lui fait peur. Olivier est un travailleur forcené où on peut lui mettre on peut le mettre à faire des bouteilles pendant 3 semaines, ça pose aucun problème. Et Bastien a cette petite fibre math et comptable qui est absolument impérative et qui
lui permet
de gérer toute la grosse partie administrative qui va de pair avec une distillerie.
Lui, s'est collé à ça.
Et lui, heureusement qu'il est là pour pouvoir se pencher là-dessus. Ouais. Donc ça, on lui laisse avec plaisir, malheureusement.
Mais on est quand même.
On est complémentaires sans vraiment l'être. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est très capable de le faire, mais on le fait avec un peu moins de facilité, on va dire.
Une fois, il a dit non, mais ça ne me dérange pas.
Ah, ça, c'est une erreur, ça. Surtout avec ses frères, j'imagine. Bon, ça a l'air de bien se passer, en tout cas, entre frères. Vous envoyez plein d'éloges. C'est toujours aussi fluide,
le travail en famille.
Non, mais
c'est parce qu'on est à la radio, là.
Ah, voilà, ça, vous faites genre.
Non, ça se passe très bien entre nous, oui. Et puis, on n'est jamais les uns sur les autres non plus. On a quand même tous nos activités, donc... On travaille ensemble, certes, mais on n'est pas non plus collés serrés.
Ouais, 24
mis à part mon grand frère et moi, où on passe notre vie ensemble.
Ouais.
Voilà. Mais sinon,
on voit ce que ça donne.
Ouais, tu te rends compte. T'as fait les dégâts.
Bon, alors on va revenir maintenant sur votre métier, votre travail un peu plus dans le détail. Déjà, vous le disiez, vous récoltez, vous cueillez les produits que vous travaillez derrière. Où, comment, quoi ?
Alors déjà, on a le label Hautes-Alpes naturellement. C'est un label qui certifie que la majorité de ce qu'on utilise vient des Hautes-Alpes. On va passer énormément de temps en montagne à récolter, à cueillir tout ce dont on a besoin. Après, nous, on s'applique à avoir vraiment une cueillette raisonnée. Ça ne sert à rien de pouiller l'endroit. Ce qu'on va faire, c'est quand on va cueillir, on va entretenir parce qu'on en a besoin tous les ans. Donc, on a nos lieux. On a nos sites, on a nos parcelles, par exemple, dans lesquelles on va aller récolter le mélèze. On va pas détruire un mélèze, on va aller chercher juste ce qu'il nous faut pour la production. On a nos coins à Mantes, on a nos coins à Vervaine, etc. La chance qu'on a dans le département, c'est qu'on a toutes les altitudes, donc on trouve vraiment énormément d'espèces.
Et vous vous déplacez dans tous les départements.
Et on n'hésite pas, on n'a pas le choix. Pour aller chercher de la verveine citronnée, on va la chercher un peu dans le sud. Le thym, on va le chercher un peu dans le sud.
C'est nos journées qui sont rythmées un petit peu comme ça. Parfois, on a une journée qui va commencer le matin avec un marché, et un marché va finir à 14h. À 14h, on en profite pour partir en forêt, aller ramasser de la menthe. Et je me permets de rebondir un peu sur ce que disait Nicolas, parce qu'on a souvent la question de savoir si on a un impact ou pas sur notre environnement. Et à chaque fois, je leur dis, pour prendre par exemple le mélèze, notre liqueur de mélèze et notre liqueur phare, c'est vraiment le produit sur lequel on aime mettre l'accent. Et à chaque fois, on récolte le bourgeon du mélèze qui vient au printemps. Et je dis à tout le monde, vous avez vu comme je suis grand. Vous avez vu les arbres.
Du coup, on est à la radio, mais il n'est pas grand.
Dans tous les cas, même si je devais ramasser sur tous les arbres, j'aurais de toute façon, quoi qu'il arrive, un impact tout à fait mesuré sur notre environnement. Donc on est sur quelque chose de très accessible. Et fin de compte, pour fabriquer beaucoup de liqueurs, on n'a pas besoin de tant de plantes que ça. Parce que c'est l'alcool qui joue un petit peu son rôle à ce moment-là, de capter les saveurs des plantes et autres qu'on met à l'intérieur. Et fin de compte, il n'y a pas besoin de tant de matière que ça pour faire une production conséquente à la fin.
Et on va profiter d'être à la radio pour passer ce petit message, tiens. Il y a un truc qu'on aime beaucoup faire à l'automne, c'est aller récupérer les fruits que les gens ne ramassent pas. D'accord ? Dans le cas des prunes, dans le cas des coings, par exemple, il y a des gens qui ont des cognassiers magnifiques. Une fois qu'ils en ont récolté 20 kilos, le reste, ils ne savent plus quoi en faire. C'est un fruit qui est très difficile à travailler. Et nous, on n'aime pas ça, avoir des fruits se gaspiller. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va à la rencontre des gens. Généralement, on leur échange une bouteille contre les fruits qui se gaspillent. Donc, tout le monde est gagnant. Et tous les ans, on est un petit peu à la recherche de ça. Donc n'hésitez pas, chers auditeurs, à nous faire signe cet automne quand vos fruits se gaspillent.
Le message est passé. Et donc, est-ce que vous, en tant que professionnel, par exemple, je pense au Genépi, où il y a une réglementation sur la cueillette, en tant que professionnel, vous avez une jauge plus large ?
Non, pas du tout.
La logique est différente. Il y a vraiment un problème par rapport au Genépi et par rapport à sa cueillette sauvage. Les quotas sont super réglementés. Ça correspond à une poignée, simplement, par personne et par balade. Donc nous, ce serait absolument impossible de prétendre à ramasser notre Genépi. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, on utilise du Genépi de culture. Le Genépi de culture est un Genépi d'excellente qualité qui est cultivé au-delà de 1800 mètres d'altitude. On a des fournisseurs qui se situent soit dans la vallée du Queyras, soit dans le Piémont italien. On a des très très beaux producteurs qui font un produit d'une excellente qualité et qu'on considère même nous avec le temps presque de meilleure qualité parce que moins soumis aux aléas climatiques en haute montagne et un peu plus géré par rapport à sa production. Donc on a un produit qui est d'une excellente qualité malgré le fait qu'on ne le ramasse pas dans la vallée.
Non, il en faut pour les copains, avec les quantités qu'on passe. Heureusement qu'on ne va pas le ramasser nous.
Sûr, ça en laisse plus pour
si
les autres.
Si on devait le ramasser nous, ce serait une sacrée aventure.
Oui, en plus, tous les jours, votre poignée. Et vous avez donc d'autres produits comme ça que vous achetez auprès de producteurs du coin ?
Ça va être le seul.
C'est
et les fruits rouges qui viennent de Chorges et Talard. On les ramasse pas, mais sinon le reste, on ramasse tout. Et depuis cette année, on a nos propres vergers. Et ça, c'est une sacrée aventure, une nouvelle aventure dans notre entreprise. C'est qu'on a Eh bien, ça y est, on a des vergers, des arbres qui ont 65 ans, qu'il va falloir qu'on aille tailler, entretenir, récolter, etc. Donc, ça, c'est parti.
Nous avons nos propres poireliers.
Petite mission.
Ah oui, ça, c'est stylé.
Mais par contre, voilà, c'est vraiment cool.
Mais ça rajoute du travail.
Voilà. Non, mais écoute.
Oh, vous n'êtes plus à ça près, finalement.
On a de la ressource.
Je me permets de rebondir un peu et d'être un petit peu plus technique, peut-être juste un instant pour resituer un peu tout le monde. En fait, dans la distillerie, on a deux grands métiers, hein, deux métiers bien différents. On fait d'un côté des liqueurs qui sont obtenus par macération, où on va mettre une plante ou un fruit dans de l'alcool blanc qu'on va laisser macérer et qu'on va simplement ensuite rediluer avec de l'eau et du sucre, hein, pour amener au degré souhaité. Et on fait aussi de la distillation. Et ces deux métiers sont vraiment différents, parce que la distillation, là, c'est là qu'intervient un alambic, notamment le très bel alambic qu'on utilise de 1921. Et ces deux métiers vraiment différents. Hein. La liqueur va correspondre à une grosse partie de nos produits, qui sont des produits très accessibles. Et ensuite, les eaux de vie et le gin, qui sont eux distillés, nécessitent une étape de fermentation et de distillation. On fait fermenter des fruits, pas des plantes. Hein. On fait macérer des plantes, pas des fruits. Voilà, en gros.
Très bien. Bonne explication pour resituer tout ça. Et... et on va faire une pause musicale là-dessus. Vous disiez que vous écoutez une musique très souvent, tous les jours.
Alors moi, effectivement, j'écoute une musique tous les jours, hein, Three Little Birds de Bob Marley avec mes filles, j'aime beaucoup.
L'écoutez au travail ?
On l'écoute au travail.
Ouais. On travaille tout en musique.
Le message est important, il faut que tout le monde l'écoute.
Et ben, on écoute ça tout de suite. Nous sommes en direct de Briançon dans le Mag du Midi sur Fréquence Mistral avec Sylvain et Nicolas de la distillerie des Quatre Frères de Serre Chevalier. Donc nous parlions de l'histoire, la création, enfin pas la création mais la reprise de cette distillerie par vous, les Quatre Frères, et de votre travail. Donc on finissait sur cette différence entre les liqueurs et les eaux de vie. J'aimerais revenir sur la troisième production que vous faites, le gin. Est-ce que c'est la même production que l'un des deux dont on vient de parler, ou est-ce que c'est encore une fabrication différente?
C'est un petit peu un mix des deux, en fait. Le gin, c'est parti d'une liqueur, à la base, qui était une liqueur de baie de Genièvre. La baie de Genièvre étant le produit essentiel à la fabrication du gin. C'était une liqueur, en fait, simplement à la base, qui a été distillée pour en faire un spiritueux. À chaque fois qu'on distille, en fait, on va enlever la part de couleur du produit pour en faire un alcool de nouveau blanc. Et c'est comme ça que le gin a été créé, en fait, à la base. Hein. C'était un produit qui venait des Pays-Bas, initialement, qui a été transporté en Angleterre par les personnes de l'armée, qui ont distillé ça ensuite et qui ont créé le London Dry, donc à savoir le premier gin connu distillé. Et nous, on a simplement repris le même principe, qu'à savoir de faire macérer de la baie de Genévrier dans de l'alcool blanc, qui est en général de l'alcool de blé, auquel on ajoute notre petite recette d'épices, hein, ce qui va donner notre particularité à notre gin face à tous les autres. Et cette macération-là va être une nouvelle fois distillée pour le rendre blanc de nouveau. Donc 100% des gins sont toujours des doubles distillations, parce qu'on utilise déjà un alcool qui a été distillé à la base. Pour fabriquer de l'alcool avec un alambic, quand on part d'un fruit, en fait, il faut qu'il y ait du sucre pour pouvoir faire de l'alcool. La baie de Genièvre, n'ayant pas de sucre, on est obligé de la faire macérer dans l'alcool.
D'accord.
La grosse différence.
Donc nous, on fait deux gins différents.
Oui.
On a un premier gin qui s'appelle Le Sang, qu'on a sorti l'année des 100 ans de notre alambic. On y met 80% de baie de Genièvre, donc ce qu'il disait, du Genièvre qu'on ramasse nous ici à la main, ça fait la petite plus-value, parce que pour ceux qui ont déjà ramassé du Genièvre, vous pouvez savoir que c'est pas la chose la plus facile et agréable à faire. Donc on a sorti le premier, Le Sang, par rapport aux 100 ans de l'alambic, qui est de 1921, et on l'a sorti en 2021. Et le second, on a créé le gin Phoenix. Tu voulais que je rajoute quelque chose?
Oui, j'aurais aimé que tu rajoutes quelque chose, parce que le gin, le sang surtout.
Le sang pour la crête.
Ah ouais.
On l'a appelé le sang, certes, pour les 100
ans de
l'alambic.
Oui, parce qu'on aime bien les petits jeux de mots.
Oui, mais
on l'a aussi sorti.
Et surtout pour le sang des frères.
Dans ce sens-là.
Et aussi, bien sûr, pardon. Puis on a tellement poussé le vis qu'on l'a fait à 37,5 température du corps.
Exact.
Ah non, je m'attendais à ce que tu rebondisses au moins là-dessus, quand même.
Je vais arrêter de rebondir, moi. Je suis trop vieux pour ça. Et le second, on a créé le gin Phoenix. Alors ça, c'est pour un truc dont on n'a encore pas parlé, mais on a eu des débuts assez galères. Parce que tu as parlé d'octobre 2020. Donc pour ceux qui se rappellent de là où on en était dans notre jolie petite vie en octobre 2020, on sortait de la première phase du Covid, juste avant la seconde. Donc on a acheté dans un méchant contexte. Un an après, on a eu un incendie où on a tout perdu. La seule chose qui n'a pas brûlé, c'est notre alambic. Donc ça, on l'a un peu pris comme un signe. Et on a dit, nous, on est jeunes, on a de l'énergie. On a tout recommencé à zéro. Et pour symboliser ça, on a sorti ce gin Phoenix qui est plus puissant, plus percutant, dans lequel on a ajouté de l'eau de vie de mélèze. Ça, c'est un truc qu'on est les seuls à faire, distiller notre liqueur de mélèze pour en faire une eau de vie et l'ajouter dans ce gin. Ça fait un New Modern Dry Gin dans la catégorie. À l'intérieur duquel on a mis un petit morceau de charbon pour le petit clin d'œil à l'incendie. Un gin qui plaît beaucoup, beaucoup. Enfin, nos deux gins, de toute façon, plaisent beaucoup, mais sont deux gins complètement différents.
Voilà. Et vous avez bien rebondi, d'ailleurs, suite à cet incendie. Est-ce que vous pensez que ça... Je sais pas, vous en retirez peut-être, finalement, du bon, en vous disant que ça a pu vous aider par un certain côté?
Comme dans tous les événements d'une vie, hein, il y a toujours du bon à tirer. Alors, il nous aura fallu un petit moment pour digérer.
Ouais,
on dit qu'on a 5 ans, donc on a créé l'entreprise en octobre 2020, mais fin de compte, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille dans de bonnes conditions, puisque ce démarrage en plein Covid a été super sportif pour nous. Un an à batailler, en fait, hein, simplement pour survivre. Quand on n'a aucun client ouvert, forcément, c'est pas facile. Et puis donc, à la fin de cette année-là, l'incendie un peu solide. Donc, le temps de se relever, ça a pris quand même 8 mois. Donc, 2 ans et demi qu'on travaille dans de bonnes conditions. Mais par contre, maintenant qu'on a digéré, on se dit que ça a été, fin de compte, un mal pour un bien. Parce que si on avait dû, en fait, à l'époque, attendre après la réfection des locaux suite à l'incendie, on n'aurait pas pu réaménager avant presque un an ou un an et demi. Donc ça a imposé le déménagement. Et là, il y a eu quand même un petit peu de chance dans tout ce malheur. On a trouvé un local qui est bien mieux que celui qu'on avait avant, puis beaucoup plus central dans la vallée de Serre-Chevalier, à savoir Villeneuve-la-Salle. Et on est vraiment dans des locaux qui correspondent à notre activité. Et Bon, voilà, le temps de digérer quand même pour le dire, mais du bénéfique à tirer de tout ça, parce qu'un superbe local en plein cœur de la vallée.
Dans ce local, on peut justement y accueillir du public. Donc on a enfin pu ouvrir notre distillerie aux visites. On organise des visites gratuites sur réservation. Il suffit d'appeler Sylvain pour ça.
Merci Nicolas.
Et on a aussi créé cette année la gin manufacture. Donc ce sont des ateliers pendant lesquels les gens peuvent venir faire leur propre recette de gin. On a mis à disposition plein d'épices différentes. Et chacun va faire sa petite recette, distiller avec son petit alambic à lui, repartir de là avec sa bouteille à lui et son étiquette personnalisée. Donc voilà, on vient d'ouvrir ça et on passe de très très bons moments. Ça dure 2h30 à peu près l'atelier. C'est vraiment fun, vraiment très fun.
Et tu es la bienvenue d'ailleurs, Marion.
Ah ben, avec grand plaisir. Ça coûte combien?
Pour toi,
on verra.
À prix d'amis. Et pour les auditeurs et auditrices.
Sinon, c'est 79€ par personne, et à savoir qu'on repart avec sa propre bouteille de gin de 50 centilitres.
Ouais, comprise dans le prix. D'accord. Exactement. Je rebondis sur l'alambic. Donc là, vous ne laissez pas votre alambic, j'imagine, au public pendant ces ateliers. Non. Est-ce que c'est un alambic qui date de 1921, si je ne me trompe pas?
Exact.
Quelle est l'histoire de cet alambic avec lequel vous travaillez?
L'histoire de cet alambic, elle est super longue. Alors nous,
alors,
alors t'es prête, 100 ans d'historique. Allez, c'est parti.
Il y a 100 ans d'historique. Malheureusement, on n'a pas la totalité de l'historique. Nous, on considère qu'il est de 1921 parce que c'est la date la plus vieille qu'on ait réussi à trouver en fait dessus. À savoir qu'il y a plein de dates qui sont poinçonnées à plein de différents endroits qui correspondent à des changements de décrets, à des passages de douane, à des réparations. Donc il y a plein de dates différentes, 100 ans de vie, vous doutez bien que voilà, il a eu beaucoup beaucoup de réparations et autres. Nous on a son historique en fait que depuis 84, et on sait que de 84 à 2002, il faisait les tournées de bouilleurs de crue dans le Nord Isère. Donc il tournait avec un monsieur que tout le monde appelait le père Jaco, si je dis pas de bêtises.
Est-ce qu'on peut juste expliquer bouilleur de crue?
Bien sûr, le métier de bouilleur de crue à l'époque consistait simplement, en fait c'était un distillateur, hein.
Je me permets de faire
une petite aparté.
Un petit peu de syntaxe.
Le bouilleur de crue, en fait, c'est malheureusement un terme qui a été attribué au distillateur, mais qui n'était pas le bon terme initialement. La personne qui distillait avant, on l'appelait le brandevinier. Donc c'était la personne qui fabriquait la brandevigne, à savoir l'alcool, l'eau de vie de raisin.
Produit issu de la vigne.
Et le bouilleur de crue, lui, était plutôt la personne qui faisait bouillir le fruit. Quand on parle de faire bouillir le fruit, c'est le faire fermenter. Parce que quand on lance un fruit en fermentation, on prend l'exemple de la poire William, quand on la lance en fermentation, le macérat se met vraiment à bouillir. C'est assez étonnant. Et ça génère beaucoup de gaz de fermentation pendant une certaine période. Le temps, je refais une aparté, le temps que les levures consomment le sucre qu'elles ont à disposition et le transforment en alcool.
Gaz de fermentation, voilà. Ce gaz de fermentation fait remonter des bulles et on a l'impression visuellement que ça boue alors que ça ne dégage pas de chaleur.
Donc la personne qui faisait bouillir les fruits, simplement, c'est la personne qui les faisait fermenter. Et le brandevinier, la personne qui venait les distiller. Il y a eu un petit peu...
Un mélange
voilà, dans l'histoire qui nous a amené à appeler cette personne-là le bouilleur de crue, alors que c'était vraiment simplement un distillateur.
Qui était ambulant, le bouilleur de crue.
Et lui, son rôle, en fait, c'est exactement notre alambic, il est monté sur un châssis, 4 roues, il était tiré derrière un tracteur et il allait sur les places des différents villages du Nord Isère pour aller distiller directement les fruits des différents producteurs qui avaient des droits à la distillation à l'époque.
Donc vous lui permettez une nouvelle vie finalement.
Exactement, donc depuis 2002, donc de 84 à 2002, il a eu cette activité. En 2002, il a été racheté simplement par un producteur, celui qui a créé en fait initialement la distillerie dans le 05, à savoir Freddy, qui est à la ferme de ma Madeleine. Il avait créé
cette
distillerie. Voilà, un petit clin d'œil à Freddy, effectivement. Et c'est lui qui avait acheté cet alambic en 2002 pour son entreprise. Et de 2002 à 2012, c'est lui qui l'a utilisé pour son entreprise, la ferme de la Madeleine. Et c'est qu'en 2012, donc, quand la distillerie des Boussardes a été créée, que l'alambic a définitivement fait son voyage donc de Gap jusqu'à Serre-Chevalier. Et maintenant, il est dans nos locaux, il a une place de sédentaire, hein, on ne le bouge plus du tout. Hein. Ce passé de bouilleur de crue, c'est bien derrière lui.
Et ça tient indéfiniment, ce matériel?
C'est un matériel qui est tout en cuivre. Alors, il a été rénové parce que déjà, dans son passé, il prenait des nids de poules. Alors, il fallait le réparer à chaque fois qu'il s'arrêtait. Après, ce qu'il faut savoir, c'est quand même un objet qui a 100 ans. Un objet qui a 100 ans, il n'y a aucune électronique, il n'y a rien de compliqué. Donc, c'est des tuyaux, des joints, tout est réparable. Donc, en fait, en soi, du moment qu'on est bien entouré de personnes qui savent faire, de bons chaudronniers, de plombiers et autres, il n'y a jamais vraiment de souci pour faire fonctionner la bête.
Vous en avez un deuxième ou vous travaillez qu'avec celui-ci?
Alors, on a eu travaillé avec un autre petit alambic, mais maintenant qu'on maîtrise, on va dire, le fonctionnement de cet alambic de 1921, on n'utilise que celui-ci. Il fait un travail exceptionnel, en fait. Il a été très bien entretenu et très bien amélioré avec les années.
Il était bien pensé, bien amélioré.
Il est équipé maintenant pour distiller jusqu'à 1000 litres en une seule fois, donc ce qui est imposant dans la vie, dans le monde des alambics.
Et on en est loin.
Et on en est loin, exactement. Ah
ouais. Et grâce à lui, vous produisez, donc vous avez plusieurs produits que vous proposez donc dans votre boutique, dans la distillerie. Pas seulement d'ailleurs grâce à lui, puisque vous ne l'utilisez pas pour les liqueurs.
Exactement.
Bravo.
Le processus. J'ai bien appris. Je travaille. Et donc, vous produisez donc des liqueurs, coing, framboise, fruits rouges, thym, menthe, genépi, mélèze, hysope, verveine. Et des eaux de vie, pour les prunes, j'ai bien révisé. Ah, il en manque. Ah, pourtant, j'ai révisé.
Une n'est pas des moindres.
Et le gin.
Ouais, et
laquelle,
j'ai manqué ? Une n'est pas des moindres. On vient de sortir une toute nouvelle liqueur qu'on est les seuls à faire.
Que je m'attribue, d'ailleurs.
Que tu t'attribues.
Allez,
t'as le droit. Je te la laisse.
Sur l'idée, je m'attribue ce produit. Bon, ça quand même.
Il a eu l'idée, on a fait le reste.
C'est un cours de circonstances, l'idée. Mais dans tous les cas, on a créé une nouvelle liqueur dont on est super fier, qui s'appelle le mielèze.
Ah oui.
Où on a fait notre liqueur de mélèze, mais que cette fois-ci, nous n'avons pas sucré au sucre blanc, qui est un sucre neutre, mais au miel.
Ah, je ne sais pas complètement faux, si j'ai dit mélèze, quand même.
Au miel.
C'est plus joli, ça sonne mieux.
D'accord, donc la toute nouvelle.
La toute nouvelle, le mielèze.
Le mielèze.
Liqueur à découvrir, 35 degrés de bonheur.
Ok, j'avais demandé votre préférée, mais du coup, Sylvain, c'est la tienne, j'imagine.
Alors, si je devais choisir un seul de mes produits, Marion, malheureusement, ce ne serait même pas le mielèze, ce serait la poire William.
D'accord. Voilà,
un produit distillé, on ne met pas la même énergie à distiller un produit qu'à en fabriquer une liqueur. Et la distillation est un monde absolument incroyable, passionnant. Et le résultat qui en découle est en plus de ça merveilleusement bon. Donc non, je choisirais quand même la poire William.
La poire William qu'on a appelée 1921. Le petit clin d'œil à l'alambic. Chacun de nos bouteilles, chacun de nos produits a sa petite histoire, son petit nom.
Tout fait sens.
Exactement. Et notre liqueur de mélèze, on vient d'avoir une médaille d'argent sur un concours international. Là. Donc on est plutôt fiers de ça. C'était un concours qui regroupait tous les producteurs de l'arc alpin, de la Slovénie jusqu'à la France. Et donc voilà, notre petite liqueur de mélèze qu'on a appelée la Manne, en hommage à la Manne de Briançon, qui est le nom un peu traditionnel du mélèze dans le Briançonnais, a eu sa médaille d'argent. Voilà.
Et c'est ton préféré ?
Ça fait partie de mes préférés. Ouais, bien sûr.
Et il y en a un autre
Moi, je suis un fanatique de la menthe, qui est un assemblage de menthe sauvage qu'on ramasse ici. Qui est un produit incroyable qu'on peut aussi bien déguster en apéritif qu'en digestif. Comme je suis un peu gourmand, en Dijon avec un petit carré de chocolat ou sur une boule de glace, je l'aime particulièrement. Et après, dans les eaux de vie, un inconditionnel de la poire. Et puis, une eau de vie qu'on n'a pas pu faire depuis 2 ans, qui est la marmotte. Alors, à chaque fois, on fait la petite blague, vous connaissez la marmotte ? Le petit animal qui crie dans la montagne, eh ben c'est pas lui. Le jour où vous voyez écrit marmotte avec un seul T, à ce moment-là, on parle de la Prunus brigantina, la prune de Briançon, qui est une espèce endémique à la vallée. Et cette prune, on est les seuls à la ramasser pour la distiller. Ça donne une prune qui a un goût rustique, un goût vraiment bien à elle, avec un petit goût d'amande en arrière-bouche qui vient du fait qu'on la distille avec son noyau. Et ça, c'est un produit que les amateurs d'eau de vie s'arrachent parce qu'elle est rare et elle est très très rare et qu'on est les seuls à la faire. Et puis malheureusement, je te dis, ça fait 2 ans que le gel, il nous empêche de la récolter.
Donc elle est en rupture de stock.
Ça fait un moment, ouais.
On vit avec la nature, hein, vraiment.
Et oui, le fait que vous récoltiez, ça implique que vous avez un certain nombre de bouteilles.
Quand on parle de local, c'est ça en fait. C'est cette mentalité de dire aux gens, les années où il y en a, on vous en proposera. Les années où il n'y en a pas, on ne va pas les faire venir d'ailleurs. On reste
vraiment dépendant des conditions climatiques, de l'environnement. Et si les fruits gèlent, il n'y aura pas de fruits. S'il n'y a pas de fruits, il n'y a pas d'eau de vie, c'est comme ça.
Et vous, ça vous convient dans votre travail Vous ne cherchez pas à le développer.
C'est notre mentalité, tu vois. C'est le consommer local, il est souvent bien plus cohérent que, j'ai le droit de le dire, que le consommer bio, quand le bio il vient de l'autre bout du monde, non, non. tu vois
L'impact, on n'est pas des grands partisans du bio, en fait.
Non, mais c'est partisan du local.
Pas partisan, ben, oui, partisan, non, mais en fait, c'est de la cohérence. On est partisan de la cohérence, en fait.
Exactement. Moi, je suis plutôt pour marquer que c'est un produit pas bon sur un produit pas bon, plutôt que de marquer bio sur un produit bio, en fait. Je pense que la logique, c'est de faire un bon produit.
Voilà.
Voilà. Et plutôt de noter quand c'est vraiment de la merde, plutôt que l'inverse.
Et vous avez un produit qui marche plus que les autres, un produit vraiment qui se vend particulièrement bien.
Le mélèze.
Hein. Ouais, le mélèze, il se vend bien toute l'année. Après, ça va dépendre des saisons. La framboise, la menthe, ça cartonne en été.
Après, il y a quelque chose aussi. Il y a quelque chose aussi, c'est qu'on a vraiment mis l'accent sur le mélèze. Comme on te disait tout à l'heure, l'objectif de la distillerie, initialement, c'était vraiment d'amener de la spécialité dans la vallée de Serre-Chevalier. On considère actuellement que, malheureusement, nous n'avons pas vraiment beaucoup de spécialités à proposer à une clientèle touristique. Et on voulait vraiment amener cette spécialité. Nous, on considère que le mélèze, c'est vraiment notre spécialité à nous. Parce que majoritairement dans la vallée de Serre-Chevalier, d'autres régions, pour ne pas les citer, se sont un peu appropriées la liqueur de Genépi. Se sont un peu appropriées certains des produits. Nous, on a vraiment décidé de s'approprier le mélèze et d'en faire notre spécialité. La vallée est connue pour cet arbre. Nous, on a vraiment envie de la faire connaître en plus au travers de cette liqueur de mélèze, à savoir la manne. Encore une fois, 35 degrés
dans
de bonheur.
Une dernière question sur votre travail, vos rendez-vous dans l'année, vos gros coups de bourre, votre rythme en fait dans l'année, comment ça se passe?
C'est rythmé, mais c'est rythmé plus un rythme qui envoie.
Un beau tempo. En fait, voilà, hors saison, on produit, en saison, on vend. Toute l'année, on fait des événements. On peut nous retrouver sur des marchés de Noël comme sur des marchés hebdomadaires. On va faire des foires agricoles. On va nous retrouver à Beaucroissant cette année. On va faire des fêtes médiévales. On n'arrête jamais, en fait.
Ouais.
On n'arrête jamais. Nous, ce qu'on aime, c'est vendre nos bouteilles directement. Et du coup, pour ça, et ben, ça oblige à bouger, ça oblige à rencontrer les gens. Et puis à fidéliser, et ça c'est un aspect qui est super important, c'est que les gens d'une année sur l'autre ils viennent refaire les stocks, et c'est plutôt agréable à entendre.
Et puis la vie est aussi rythmée fin de compte par les activités annexes, à savoir le coup de bourre qu'il va falloir mettre pour rénover le bar ou le restaurant, ou aller aider le petit frère à faire les foins, ramasser le foin pour l'hiver, ou aller
récolter ou entretenir des arbres, ou faire notre miel aussi,
planter les patates.
Ah oui, vous faites votre miel aussi.
Faire notre miel, planter les pommes de terre.
C'est votre miel qui est dans vos produits.
Ouais.
Ah
ouais. Voilà.
D'accord, donc un rythme intense toute l'année. Voilà, c'est ça votre
message. C'est ça, en fait, le message.
Très bien, c'est ça le message.
On n'est jamais en vacances, mais on n'a jamais l'impression de travailler.
Exactement.
C'est beau, ce sera le mot de la fin. juste, quand même, avant la toute fin, les infos pratiques, où est-ce qu'on vous retrouve? La distillerie, donc, c'est...
Alors, la distillerie sur réservation, la boutique en face de la mairie de Villeneuve-la-Salle, ouverte tous les jours sauf le lundi. Le bar, le Trappeur et le restaurant, le Flouka. Et ensuite...
D'accord, je me permets quand même de rebondir. Aucune adresse. Distillerie des Quatre Frères, donc du coup, c'est le 8 route de Briançon, hein, Villeneuve-la-Salle.
Ils ont Internet.
Mais la boutique, ce sera le 6 rue de la Guisane, donc c'est quand même plus facile à trouver, c'est la rue centrale. Et le bar, le Trappeur et le restaurant, le Flouka, sont place du téléphérique à Champmer. Donc super facile à trouver.
Oui, et vous proposez donc des visites, les ateliers jeans. Et on vous retrouve sur les marchés.
Prochain événement, ce sera Foire de Beaucroissant et Salon Artisanat à Gap.
Ok.
Médiéval. Ouais, ensuite médiéval. Enfin, ça n'arrête pas.
Un projet futur, des projets futurs
ou... Ah, tout le temps.
Trop.
Alors, on ne va pas s'étendre dessus maintenant.
Non,
d'accord.
T'as pas le temps.
J'ai pas le temps.
Non.
Très bien. Eh bien, ce sera, dans ce cas, la fin de cette émission.
Merci Marion.
Et c'est la fin de ce magazine aujourd'hui. Rendez-vous demain matin à 7h30 avec Chris pour la matinale, puis à midi 10 avec Nathalie Amanosque pour le magazine du midi. Bon après-midi à toutes et tous.
what they've done and speak the words I wanna hear to make my demons run. The door is locked now, but it's open if you're true. If you can understand the me, then I can understand the you. Beside me, under wicked sky, through black of day, dark of night, we share this paralyzed. The door cracks open, but there's no sun shining through, black heart scarring darker steel. But there's no sun shining through. No, there's no sun shining through. No, there's no sun shining. What I've felt, what I've known. Turn the pages, turn the stone. Behind the door, should I open it for you? She'll never love again. She'll leave beside me, but she'll be there when I'm gone. Black heart scarring darker steel. Yes, she'll be there when I'm gone. Yes, she'll be there when I'm gone. Then sure she'll be there.
Could you be there? 'Cause I'm the one who waits. don't